Parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour chers auditeurs. Depuis lundi, je vous parle des résistants chrétiens entre 1939 et 1945 que le journaliste du Point, Jérôme Cordelier, présente dans un livre « L'espérance est un risque à courir ». Après avoir évoqué le rôle des évêques de France, puis le témoignage d'une ancienne résistante, Odile de Vasselot, puis du clergé, nous allons voir maintenant comment des hommes et des femmes ordinaires ont eux aussi contribué à sauver des vies. Parmi eux, je choisis de vous parler d'abord d'un jeune. Henri Fertet, dont on découvre l'émouvante figure, nous dit l'auteur du livre, exhumé des oubliettes de l'histoire en 2019 par le président de la République Emmanuel Macron pour la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, et l'auteur d'ajouter « On avait statufié Guy Moquet, mort en 1941 à l'âge de 17 ans, mais malheureusement passé sous silence, Henri Fertet, mort à 16 ans en 1943, l'un était communiste, l'autre catholique. Chacun d'eux avait rédigé une lettre juste avant de mourir. La lettre de Guy Moquet est restée célèbre parce que le président Nicolas Sarkozy l'avait fait lire dans toutes les écoles de France en 2007. Revenons à Henri Fertet. Il est né dans le Doubs en 1926 d'une famille d'instituteurs. Lycéen à Besançon, il s'engage l'été 1942 dans le groupe de Marcel Simon, secrétaire général de la Jeunesse agricole chrétienne. Le jeune résistant se signale par trois actions d'éclat. D'abord, il mène l'assaut contre le poste de garde du fort de Montfaucon le 16 avril 1943, pour s'emparer d'un dépôt d'explosifs, action au cours de laquelle meurt une sentinelle allemande. Puis, le 7 mai, il participe à la destruction d'un pylône à haute tension près de Besançon. Et enfin, le 12 juin, Fertet attaque un commissaire des douanes allemand afin de lui prendre son arme, son uniforme et surtout les papiers qu'il transporte. L'arrivée d'une moto l'empêche de se saisir des documents, mais le résistant tue le commissaire. Quelques semaines plus tard, le 3 juillet 1943, il est arrêté en pleine nuit chez ses parents. Son cas est vite expédié. Le garçon est condamné à mort le 18 septembre 1943, après 87 jours de détention et de torture. Il est exécuté le 26 septembre 1943, à la citadelle de Besançon, en refusant qu'on lui bande les yeux et qu'on l'attache, comme le précise la lettre. Voici cette lettre. « Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas. On voudrait encore la garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule. Ce que j'ai souffert de ne plus vous voir, de ne plus sentir sur moi votre tendre sollicitude que de loin. Pendant ces 87 jours de cellule, votre amour me manquait plus que vos colis. Et souvent, je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait. Vous ne pouvez douter de ce que je vous aime aujourd'hui, car avant, je vous aimais plutôt par routine. Et maintenant, je comprends tout ce que vous avez fait pour moi, et je crois être arrivée à l'amour filial véritable. Peut-être après la guerre, un camarade vous parlera-t-il de cet amour que je lui ai communiqué. J'espère qu'il ne faillira pas à cette mission sacrée. Remerciez toutes les personnes qui se sont intéressées à moi. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre, et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse, première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout. Et je chanterai sans brémeuse parce que c'est toi, ma chère petite maman, qui me l'a apprise. Papa, je t'en supplie, prie. Songe que si je meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort sera plus honorable pour moi que celle-là? Je meurs volontairement pour ma patrie. Nous nous reverrons tous les quatre bientôt au ciel. Adieu, la mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. Mille baisers, vive la France. Un condamné à mort de 16 ans. Signé Henri Fertet. Et Jérôme Cordelier, l'auteur du livre, se pose alors la question. Le jeune Henri Fertet incarnait-il à lui seul la résistance catholique? Le terme même fait débat, car force est de constater qu'il y a des hommes et des femmes qui s'engagèrent contre la barbarie nazie parce qu'ils étaient catholiques, tout autant que protestants ou orthodoxes, et que cette audace dont ils faisaient preuve leur fut souvent inspirée par leurs convictions spirituelles. L'engagement des jeunes chrétiens, c'est aussi cette manifestation le 11 mai 1941 devant la statue Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris, qui se transforme en un cortège nourri en chantant la Marseillaise jusqu'à la place de la Concorde, alors que le quartier est verrouillé par l'occupant. Ce rassemblement, le premier après la marche vers l'étoile 6 mois plus tôt des lycéens et étudiants du 11 novembre 1940, est organisé par le mouvement Valmy, émanation de Jeunes Républiques, groupement de catholiques sociaux inspiré par Marc Sangnier. Face au mal nazi, une conjuration du bien tisse sa toile partout en France. Entrés parmi les premiers dans la lutte clandestine, les résistants chrétiens étendent peu à peu leur action. En Haute-Loire, dans la Drôme, le Tarn, le Gers, le Lot-et-Garonne, la Sarthe, la Creuse, notamment des communautés villageoises, souvent inspirées par des croyants, servirent ainsi de cité-refuge pour les Juifs. C'est par des historiens locaux que furent connues ces actions. C'est l'exemple bien connu du Chambon-sur-Lignon et des communes alentour du plateau du Vivarais-Lignon, enclave protestante. Ces chrétiens représentaient alors plus d'un tiers d'une population de 24 000 habitants qui accueillirent et cachèrent dans des fermes et aumes d'enfants de nombreux réfugiés juifs à l'initiative du pasteur André Trocmé et de son épouse Magda. Sur le plateau du Chambon, avec le pasteur Édouard Tess, mais aussi une quinzaine d'autres clercs, André Trocmé enrôla une véritable armée spirituelle œcuménique. Les réseaux d'entraide de juifs côtoyaient les organisations protestantes et même les quakers, ce qui permit l'accueil de familles et de beaucoup d'enfants au sein d'une douzaine de paroisses. Quelquefois, les gens lui demandaient « Comment avez-vous fait pour décider ?» Mais il n'y a rien à décider. Le problème est de savoir si nous sommes, oui ou non, tous des frères. Et si c'est injuste ou non de livrer des juifs, alors essayons de les aider. Et le pasteur de poursuivre, si seul l'individu chrétien peut offrir une résistance à l'état pur, une résistance sans compromis, une résistance dépouillée de toute considération tactique, une résistance au nom des principes de l'Évangile. Dans de nombreux villages et bourgs français, les réseaux d'entraide spirituelle favorisèrent la sauvegarde de juifs et d'une majorité d'enfants. On estime qu'en France, 60 000 à 77 000 enfants cachés furent ainsi sauvés. Exemple parmi d'autres, la maison des enfants de Moissac dans le Tarn-et-Garonne, où séjournent 500 enfants, dont le mime Marceau et l'avocat Serge Karsfeld, tenu par Chata et Bouli Simon, couple appartenant aux éclaireurs israélites de France. Autre réseau structuré, mais qui s'appuyait sur des éclaireurs protestants. Et quand, en 1943, les rafles allemandes s'accentuant et la menace devenant pressante, la maison dut fermer. Beaucoup de ses enfants furent hébergés dans des institutions catholiques environnantes, notamment chez les Sœurs de la Miséricorde. Au revoir, chers auditeurs, et à demain.